virages, vois. Les virages dans les lignes droites, tu me dis. Quelle est ma trajectoire, je te dirai. Qui sait ce qu'elle sera, qui me dira qui j'étais. Un tigre, un zèbre, un piranha. Le passé est un cimetière. Moi, je sais même pas si j'étais là. Si c'était mieux avant, comment c'était, comment est-ce qu'on avance dans l'immensité du temps, autant de commandes, de romans inachevés. Et là je sais que les plus grands yeux finissent par se fatiguer, alors j'essaie de voir la beauté dans les virages.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Squat. On est déjà au 6e épisode, le temps passe vite. Et donc je vous explique pour toutes celles et ceux qui nous ne connaissent pas, donc on a commencé à aborder donc la question des squats. On a vu dans les premiers épisodes quels sont les préjugés, les stéréotypes autour de ces milieux, pour ensuite cadrer un peu la discussion en regardant donc qu'est-ce qu'il a dit la littérature scientifique à ce sujet avec la mythique Jack qui est avec nous ce soir. Et pour ensuite donc découvrir des squats autres et variés, on a eu des squats de la voix de son papier, on a eu la clé, on a eu le pharaon. Et d'ailleurs, je remercie à nouveau ces deux squats, vu qu'on a c'est des squats qui nous accompagnent dans notre aventure depuis le début. Et ce soir, vu que le 8 mars c'était la journée internationale pour les droits des femmes, on a pensé donc d'explorer donc la question des personnes sexisées au sein du squat, donc leur expérience et en quoi le fait d'être une personne sexisée influence les vécus au quotidien. Et donc je préfère laisser la parole à nos intervenants et intervenantes et je les laisse présenter.
Ok, ben bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Emmanuel, je vis à la clé depuis juillet, mais je vis en occupation depuis peut-être une petite dizaine d'années, on va dire. J'étais membre de Comina avant. On m'a invité, donc je suis venue.
Oui, alors moi c'est Maya, 32 ans, maman. Vivant en occupation depuis à peu près 2 ans, mais j'ai toujours connu en fait la bande aussi. Enfin, ça fait une dizaine d'années que je les connais et je suis très proche d'eux. Et il m'est arrivé pas mal de catas depuis 2 ans, ce qui fait que maintenant je les ai rejoints. Voilà.
Et moi c'est Jack. Je ne me présente plus vraiment. Du coup.
Non, il y a pas besoin.
Non, c'est bon. AKA Mr Pink dans certains épisodes quand j'ai le micro rose. Je co-anime ce podcast avec Mathéo et Chevy qui n'est pas là ce soir, mais qu'on embrasse très fort.
Oui.
Et je ne vis plus en squat, mais j'ai vécu quelques années dans le sud de la France. Et du coup, j'ai une expérience aussi de personne assignée femme à la naissance et personne non binaire en autodétermination dans les squats. Donc, je vais co-animer ce podcast avec Mathéo et à la rigueur rebondir sur quelques trucs en partageant mon expérience perso, si c'est pertinent. Je me permets, juste avant qu'on embraye, de faire un petit... petit glossaire des termes qui vont probablement être utilisés ce soir pour nos auditeuristes. Quand on parle de personnes sexisées, on parle de personnes qui subissent le sexisme et l'oppression patriarcale au quotidien. Donc, supposément, toutes les personnes qui ne sont pas des hommes cisgenres. Et par cisgenre, on entend une personne dont le genre assigné à la naissance est en accord avec son genre psychologique, social et... biologique. Du coup, voilà, à l'inverse des personnes trans, genre, du coup, voilà, petit glossaire et on peut démarrer.
Alors, avant de démarrer, je voulais juste remercier le groupe Banal qui a introduit donc cet épisode, les groupes Glove, dont on a le plaisir d'écouter un morceau dans la suite de cet épisode, et surtout un grand merci à Jack, qui vous a déjà entendu parler, Chevy, qui malheureusement aujourd'hui n'est pas parmi nous. Mais elle va bien, elle n'est pas décédée, elle avait un engagement. Et Nora, qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais, mais c'est notre graphiste qui s'occupe de faire toutes les chouettes miniatures que vous trouvez sur le site de Radio Panique.
Et c'est trop beau ce qu'elle fait.
Oui. Et je vous propose alors de ne plus tarder.
Ouais, je démarre de but en blanc avec la question à 10 000. Du coup, vous, en tant que femme ou autre d'ailleurs, enfin femme, de ce que j'ai cru comprendre dans l'ensemble, est-ce qu'il y a des éléments dans votre vie quotidienne, dans les squats où vous vivez, où vous vous dites « Ah tiens, si j'avais été un homme cis, ça aurait pas été pareil ?»
Oui, certainement. Oui, il y a bien des moments où ça arrive, quoi. Forcément. Par exemple, c'est vrai qu'il y a souvent l'histoire du ménage, de la cuisine. Il y a rien à faire. Hein. Ça revient souvent aux femmes. Pourquoi ? Parce que les gars font tendance à faire les travaux pas spécialement manuels, hein, parce que la cuisine et le ménage, c'est manuel aussi. C'est plutôt les travaux physiquement durs, quoi. Ou alors avec des compétences et des outils qu'on n'a pas spécialement, parce qu'un petit garçon avec son papa, il va plutôt tendance à faire du bricolage et une petite fille, la cuisine, quoi. Donc, on se retrouve avec des compétences qu'on veut offrir dans le squat de manière naturelle, mais qui sont déjà installées depuis, j'ai envie de dire, des centaines d'années. Hein, donc...
Oui, finalement, voilà. Reproduction au sein de lieux qui sont autogérés, du moins, on le souhaite, et reproduction des mêmes processus, quoi.
Quelque part, parce que voilà, on a les compétences qu'on a. Après, on aimerait bien apprendre, et c'est ça qui est génial dans les squats, il faut le dire, parce que dès qu'il y a une possibilité d'apprendre des choses avec des personnes qui ont plus de compétences que nous, ça va se faire. À part si on est dans l'urgence, etc., on va faire au plus vite, en quelque sorte. Mais sinon, non, ici, on a une réelle chance, on ne coupe pas l'herbe sous le pied. Si on veut réparer notre vélo, on va pas faire « Non, attends, je vais te le faire. » C'est « Attends, on va le faire ensemble, on regarde ensemble. » Et alors voilà, après, on sait le faire toute seule, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, quoi. Il n'y a pas dans la vie, dans la société telle qu'on la connaît actuellement, on va dire.
Alors, moi, en tant que femme à la clé, parce que donc, c'est l'expérience que je vis actuellement, pour moi, je ne vois pas vraiment de différence. Alors, il y a une différence, effectivement, de, comme on dit, de compétences, mais c'est plus une question d'intérêt. Je sais pas, il y a des gens qui aiment faire des choses, il y a des gens qui aiment faire d'autres choses. Et donc, nous, on joue vraiment sur le truc, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et donc, en fait, par exemple, on parle des tâches ménagères, l'initiative vient, c'est pas on te dit tu vas faire ça. C'est en fait, il y a un tableau, et donc on doit mettre notre nom, et l'idée, c'est qu'à la fin de la réunion, toutes les caisses soient remplies, donc que tout le monde, en fait, ait quelque chose à faire, parce qu'en fait, c'est les tâches qu'il faut faire quotidiennement. Mais donc, en fait, c'est assez variable. Moi, par exemple, j'avais envie de faire les toilettes, parce que, je sais pas, donc du coup, voilà. Mais c'est pas parce que je suis une femme qu'en fait, on a décidé que j'allais faire les toilettes. C'est parce que moi, en fait, pour moi, c'est important que les toilettes soient propres, et donc je me dis, vas-y, du coup, moi, je me mets à ça. Mais après, voilà, c'est par rapport à toutes les tâches qu'on a à faire, en vrai, il y en a pas spécialement où on va dire plus on va faire ça à une fille et ou alors on va faire ça à un garçon. Moi, je ressens pas vraiment ça. Alors après, c'est vrai que je suis dans un groupe qui est particulièrement bienveillant et vraiment dans le respect de l'individu, de l'autre, de vraiment d'essayer vraiment qu'on se sente tous à l'aise. Alors peut-être que ça vient de ça du coup, que en fait on fait peut-être naturellement attention à ça et donc que du coup, c'est pour ça peut-être que j'ai pas ressenti ça. Je sais pas. Mais après, c'est plus une question d'envie, en fait. Au départ, voilà, c'est plus une question d'envie, en vrai, qu'une question d'obligation. Après, je veux dire, le ménage, où on fait une épicerie, par exemple, on doit faire à manger le lundi parce qu'on fait la réunion, en fait, c'est des choses qui doivent être faites. Parce qu'en fait, la vie en communauté, c'est ça aussi. On a des tâches, il faut que ça soit fait. Mais je trouve que ça tourne quand même plutôt bien. Et on a ça, et on a aussi le fait qu'on ne va pas nous juger si on ne l'a pas fait. Enfin, on est assez conciliant et, pour se dire, en début de réunion, moi, effectivement, je n'ai pas pu faire les toilettes. Hein, je suis désolée, quoi. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'on va forcément incriminer la personne ou alors la regarder de travers. On est assez cool et assez chouette par rapport à ça aussi. Voilà, c'est que ça arrive, en vrai. Par contre, c'est vrai que moi, je trouve que c'est chouette de le reconnaître, en vrai. Par contre, ouais, on est, faut pas mentir, ça sert à rien de mentir et de dire je l'ai fait alors qu'en fait on l'a pas fait.
Ouais, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Hein, mais chez nous aussi, c'est vraiment ça aussi qui est cool. C'est a priori, si tu fais pas ce que t'as dit que t'allais faire, on va pas te tomber dessus. Voilà, il y a des choses aussi dans nos vies personnelles qui nous arrivent dessus et que on sait pas contrôler. Et ça, on le sait tous. On a tous nos réalités et on le sait bien, quoi, voilà. Et au-delà de ça aussi, voilà, si quelqu'un est pas bien, voilà, et que ça peut parfois durer un petit temps, on est toujours aussi voilà, super tolérant, que ce soit homme ou femme, parce que voilà, il y a aussi hein, des hommes, voilà, des hommes, des femmes qui par moments passent des moments durs, et on va plutôt d'abord voilà, le laisser tranquille et après bah, voir si on peut faire quelque chose pour lui, quoi.
Ouais. Du coup, Manu, c'est plutôt chouette comme témoignage de se dire « Ah tiens, il y a un lieu en autogestion sur Bruxelles où visiblement la répartition genrée en fait, des tâches n'est pas faite en fonction des genres en non-dit, en fait, de manière non-dite. Naturellement, c'est les femmes qui font, ou personnes sexisées, qui font le ménage, la cuisine, donc les tâches peu valorisantes. Et puis, le bricolage, les trucs où il y a plus de reconnaissance immédiate, on va dire, c'est les hommes. Et voilà, le travail invisible, les nanas et les mecs, les trucs qui font briller. Donc, c'est cool. Mais du coup, ouais... toi, Maya, tu repères quand même un peu plus, du moins dans le lieu de vie où tu vis ou dans les lieux de vie que tu as pu fréquenter, tu repères un peu plus, toi, une division plus genrée du travail domestique, en fait, dans les lieux
Bah, de manière plus ou moins forte avant, mais maintenant, c'est vraiment clairement l'endroit où je vis, c'est clairement le moins... le moins sectaire et le plus libre et là où en fait normalement on essaye que chacun fasse ce qu'il veuille, voilà. Ça c'est en théorie. La réalité, moi, telle que je la vois, c'est que naturellement les choses se font, voilà, de la façon dont je l'ai expliqué juste avant, mais il y a aussi des mecs qui font le ménage, hein. Je dis pas le contraire.
Ah oui, non, mais ils existent, on ne le nie pas.
Ouais, voilà, dédicace à tous les garçons qui font le ménage. Et voilà, et parfois ça arrive à un gars qui fait jamais le ménage de faire le ménage pendant toute la journée. Voilà, ça aussi c'est des choses qui arrivent, quoi. Voilà, mais je veux dire que voilà, faut pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Hein, c'est pas que jamais il y a un mec qui fait le ménage ou que les femmes systématiquement le font. C'est pas ça non plus que j'ai dit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se... Allez, c'est un peu subtil, quoi. Mais si on veut être vraiment honnête avec soi-même... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué. Et oui, j'aimerais bien que peut-être on échange plus, comme tu as dit, les choses peut-être un peu plus valorisantes. Mais pour ça, voilà, il faut quelqu'un quand même qui nous chaperonne, parce que sinon, voilà, on peut pas commencer à faire avec des machines et tout, machin, alors qu'on en a jamais utilisé. Mmh. Voilà, faut d'abord apprendre avant de faire de son propre chef.
Donc, voilà. Et aussi, je dirais, valoriser les tâches ménagères.
Aussi.
Ça va là. J'ai une petite question, parce que, évidemment, vous avez parlé de votre expérience actuelle, donc de l'escouade dans laquelle vous êtes maintenant, mais est-ce que vous avez vu des différences entre les lieux dans lesquels vous avez habité avant et les lieux dans lesquels vous habitez maintenant? Donc, est-ce que dans les occupations dans lesquelles vous étiez avant, il y avait plus cette répartition, cette division des tâches, ou au quotidien vous sentez qu'il y avait une différence dans votre vécu parce que vous êtes des femmes? Je ne sais pas si c'est ma question est claire, mais...
Ouais, moi, je ressens qu'avant, il y avait un espèce de rien à foutre général dans tous les squats où j'avais habité avant. Et maintenant, parce que, bah, en fait, j'ai envie de dire, grâce aux femmes de la maison, ben, parfois, ça, voilà, pour remonter les bretelles de l'un ou l'autre, ben, ça marche, quoi. Et donc, du coup, les choses roulent bien, en fait, hein. Donc, je sais pas si c'est grâce aux femmes, mais en tout cas, on a un collègue là qui s'appelle Luc, qui ne cesse de me dire tout le temps.
Ouais,
tu connais.
Oui. Et je peux confirmer, vraiment, il dit tout le temps qu'il y a la chef de Freon. Bon, je me permets de citer Luc. Bon, c'est qu'il dit, ouais, les hommes, là, le Freon, ils parlent et parlent, mais comment dans la société? Surtout la France, c'est les femmes qui ont les pouvoirs, c'est les femmes qui font bouger la chose. Donc, ouais, ils vont.
Ouais, il exagère un petit peu, mais peut-être qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, peut-être.
J'imagine que oui.
Après, bon, typiquement par rapport au ménage, il y a aussi autre chose. C'est en fait, on a tous aussi un degré de tolérance, en fait, de qu'est-ce que c'est qu'un endroit qui est propre. Mais donc, et ça, pour moi, j'ai pas l'impression que ça soit lié au sexe de la personne. enfin, c'est plutôt lié en fait à son éducation, d'où elle vient, tout ça. Je connais des hommes par exemple qui sont hyper à fond sur l'hygiène, et je connais des femmes qui n'ont rien à taper. Donc moi par exemple, je suis une femme, et c'est vrai que j'ai un rapport avec la propreté par exemple qui est complètement différent de la personne que je fréquente actuellement, qui lui par contre est à fond sur le ménage. Et donc du coup, je pense que ça vient aussi de ça en fait. C'est pas juste une question de tâches attribuées, c'est aussi une question de que en fait, si moi à un moment je vois que vraiment c'est trop trop sale, et en fait je vais me dire bon bah voilà, je me mets à nettoyer. Mais la personne par exemple, que ce soit un homme ou une femme, peut-être qu'en fait lui ça fait 2 jours que en fait c'était déjà trop sale, et qu'en fait, et donc c'est pas une question que ce soit un homme ou une femme, c'est plutôt une question de la tolérance en fait à la saleté, et donc la notion d'hygiène et de propreté, en fait il y a un peu ça aussi, je crois.
Ouais, bah comme tu dis, effectivement, enfin. En fait, ça me paraît idéal ce que tu décris, et preuve en est, il y a des espaces où c'est le cas et c'est super, mais ce truc de, en fait, c'est peu importe notre genre, on va faire selon aussi ce dont on a besoin et puis ce dont le collectif a besoin, avec l'attention portée au collectif. C'est vrai que moi, j'ai vécu dans des espaces où, pour le coup, en fait, naturellement, il y avait comme la discussion de la charge mentale et la charge logistique de l'entretien des espaces, en fait, n'était pas discutée communément, ou du moins c'était acté sous couvert de « mais on est tous politisés, on est dans des squats politisés, donc c'est à qui on fait attention de fait, mais en fait on le questionne pas au quotidien, et en fait on vient d'où on vient, c'est-à-dire de la société patriarcale qu'on connaît, et naturellement se reproduit ce glissement-là de, en fait, le travail invisible de ménage, d'entretien, de care, etc. C'est plutôt les femmes et personnes sexisées qui le prennent à charge, et tout ce qui est plus valorisant et plus physique, on est là, on est des bonhommes, bah c'est les hommes, en fait. Et ça a pu mener à des tensions extrêmement tendues, si ce n'est même des scissions de squats en non-mixité qui se sont ouverts pour ces raisons-là, notamment ce besoin de se retrouver entre squats sans pouvoir, et d'apprendre ensemble en autonomie, détaché d'hommes qui t'enlèvent les outils des mains, ou juste qui se rendent pas compte, qui s'en foutent et qui disent non non mais moi je suis féministe, j'ai compris, mais en fait au quotidien mon gars ça rame. Et du coup ça m'amène à la question justement de la non-mixité. Est-ce que cette transition a été très fluide, n'est-ce pas? On l'a vu gros comme une maison. Est-ce que vous investissez, vous, la non-mixité dans votre vie, à des endroits dans votre vie, ou bien peut-être au sein de vos occupations, par ailleurs?
Alors, qu'est-ce que tu veux dire comme non-mixité, par non-mixité?
Bah, non-mixité, du coup, c'est des moments de rassemblement, ou ça peut être du travail, de la réu, des moments, enfin, tout activité, mais du coup sur le moment c'est décidé que bah là on va le faire entre femmes et ou personnes sexisées, sans hommes cis qui viennent intervenir dans cet espace et ce moment là c'est décidé quoi, c'est vraiment okay. Sciemment décidé.
Alors ben moi j'ai un exemple de ça, alors mais je pense aussi peut-être que nous ça nous intéressait et peut-être pas les autres personnes, mais c'est vrai qu'on a fait par exemple pour je crois que c'était pour une nouvelle lune ou pour une pleine lune, je sais plus, où on a fait une réunion, mais donc on était 3 filles. Donc, attends, est-ce qu'il y avait toutes les filles de la maison? Je sais pas, peut-être qu'on était, parce qu'on a un peu plus de filles. Mais là, voilà, ça s'est trouvé qu'effectivement, on a fait cette espèce de cérémonie à 3. Alors peut-être qu'aussi, parce qu'on a une intimité aussi entre nous, au niveau de la discussion et au niveau d'apprendre à se connaître, de pouvoir se déclarer aussi et dire certaines choses. Mais c'est vrai qu'on a fait ça du coup avec le tarot. Bon, je suis pas très tarot, mais c'était marrant du coup de faire ça, de tirer des cartes et puis d'essayer de voir comment est-ce que tu vois ta vie, comment est-ce que tu veux voir ta vie, où est-ce que tu veux aller. Il y avait ce truc de trois. Et puis donc nous on expliquait un peu ce qu'on voyait dans les cartes, et puis là c'est Domi qui gérait le truc et après qui nous disait un petit peu. Et donc ça c'est un moment qu'on a fait effectivement entre filles dans la cabane, du coup dans le jardin de la clé. Mais est-ce que c'est plus... Enfin, je veux dire, on aurait pu, par exemple, je sais pas, Balthazar ou Cyril, par exemple, qui est un homme, mais avec qui aussi j'ai une intimité, une intimité de discussion, en tout cas. Peut-être que s'ils avaient été là, je sais pas si ça aurait empêché qu'ils puissent venir, le fait que ça soit des hommes. J'en ai aucune idée, c'est une vraie question. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai vu...
Non, mais du coup, de fait, ce moment-là était en non-mixité. Après, il n'y avait pas de recherche particulièrement à ce que ce soit non-mix, mais de fait, ça l'a été. Ok. Et toi, Maya, je sais pas si...
Bah, moi, j'étais en train de penser... oui, nous, on a des toilettes réservées qu'aux femmes, par exemple.
Ok.
Donc, un espace aussi réservé qu'aux femmes. Et d'ailleurs, ouais, ça me fait penser... J'avais marqué à la base « girls only ». Puis je regarde de loin comme ça et je me dis « mais non, ça... ça » Puis j'ai mis « all girls only
». Très bien.
Bah, voilà, c'est donc... voilà, bah, par exemple, voilà, on a des toilettes juste pour femmes dans notre habitation et aussi dans le hangar, là où on organise des événements culturels. Voilà, quoi. Mais sinon, vraiment, en non-mixité, non, j'ai pas l'impression, ça me dit rien comme ça. De séparer volontairement des activités juste pour hommes et femmes, là tout de suite, j'ai pas en tête.
Alors effectivement, quand je dis non-mixité, c'est pas séparé du style, bah là, et puis ça peut rentrer dans le très cliché, en plus, les personnes qui n'ont jamais été confrontées à ce terme ou à ces pratiques peuvent se dire « ah oui, c'est quoi, vous vous mettez dans une salle, vous cousez, vous parlez tricot ?» Alors non, enfin, ça pourrait par ailleurs, mais c'est rarement ça. Dans un squat où j'ai vécu, par exemple, on a fini par mettre en place des réunions non-mixtes pour... avec les femmes cis et personnes trans et sexisées de la maison. En l'occurrence, malheureusement, suite à des violences sexuelles dans le milieu squat où on était, et notamment commises par une personne de la maison qui vivait avec nous. Et du coup, on a eu ce besoin aussi d'avoir ce temps en non-mixité, sans ingérence des hommes qui ne sont pas forcément toujours déconstruits ou bienveillants sur la question, et qui, du coup, auraient tendance à... relativiser ou invisibiliser notre parole, ou silencier en fait la parole des victimes. Et du coup, au regard de toute cette réalité de les femmes dans un espace mixte où il y a plusieurs personnes, on engage une discussion, elles prennent moins la parole, elles vont pas dire les mêmes choses de la même manière, parce que notamment elles vont se dire je veux pas froisser machin, ça va le pousser dans ses retranchements, ça va machin, enfin tout ce truc de on fait attention aux hommes et à pas les bousculer, à pas leur faire mal. Du coup, les espaces en non-mixité ou les moments en non-mixité peuvent permettre ça aussi, de vent un coup, là, de c'est bon, hein, et d'aborder ces questions-là, et en sécurité aussi, surtout oui. S'il y a des hommes qui sont pas safe, qui sont pas sécures dans l'espace, ou qui ont commis des violences en s'en rendant compte ou pas. Du coup, ça sert à ça, donc d'où ma question. Mais de fait, vous investissez peu. Mais
et, coup, ouais, alors, ouais. Moi, je voulais juste, parce que je suis en train de penser à une expérience, et je crois que c'est la seule en vrai que j'ai fait vraiment de non-mixité choisie. Du coup, c'est au Poisson sans bicyclette. J'ai participé à un atelier d'écriture. C'était corps et sexualité poétique. Et donc là, vraiment, on se retrouvait donc entre femmes et non-binaires. Enfin, voilà. Mais en tout cas, moi, il y a quand même un truc, c'est que je trouvais que c'était très intéressant le fait qu'on soit entre nous. Enfin, il y avait un truc comme ça qui était. Je comprenais que c'était un cadre qui était rassurant. Après, ce que je trouvais un peu dommage, c'est qu'en fait, je trouve qu'en fait, c'est intéressant en fait de parler de certaines choses, et qu'en fait, les hommes et les femmes, en fait, tout le monde a besoin en fait de parler de certaines choses. Je sais que par exemple, j'ai écrit. Un texte sur une expérience, alors c'était un truc qui était assez romancé mais qui était tiré un peu d'histoire que j'ai entendu, une agression par exemple par un ex, donc par un couple qui est séparé, la femme revient chercher ses affaires et en fait il se trouve qu'elle se fait agresser à ce moment-là, et j'ai trouvé très intéressant en fait de l'écrire moi et après de le partager, mais j'aurais trouvé encore plus intéressant de pouvoir le partager aussi en fait à des hommes, parce qu'en fait je veux dire c'est moi, c'est ça un petit peu, c'est qu'en fait, la parole, le texte, c'est un truc qui doit vraiment être partagé au plus grand nombre. Et du coup, je trouve que c'est un peu trop limitant des fois de se retrouver entre femmes, parce que du coup, en fait, il y a toute une partie de la population qui aurait besoin, en fait, aussi, envie et besoin. Et donc, voilà. Voilà. Et c'est vrai que du coup, alors après, on a fait la déclamation. Donc là, c'était une déclamation en fin d'atelier qui, là, pour le coup, était où il y avait vraiment tout sexe et tout genre. Mais c'est vrai qu'on a pu partager en vrai un texte qu'on avait écrit, alors qu'en fait, on en avait écrit plein. Et que, qu'à chaque texte en fait, qu'on partageait, qu'on avait pendant l'atelier, en fait, je sais pas, moi, je trouvais intéressant. Et c'est marrant parce que tu dis aussi de. Comment dire de je sais pas comment expliquer ça. En fait, il y a souvent, enfin, il y a, moi je le vois dans, enfin, je l'entends dans ma vie, qu'en fait, il y a souvent, si en fait on le dit pas, la personne en fait ne se rend pas compte, et donc en fait on lui laisse même pas la chance de pouvoir avancer et de pouvoir évoluer. Et alors bon, c'est sûr que des fois c'est compliqué, qu'on se retrouve face à des personnes qui sont butées des fois, qui comprennent pas. Mais en fait, si on leur explique pas, et si on prend pas la peine de leur expliquer, on leur donne même pas une chance de changer. Et donc moi, en fait, c'est pour ça que du coup, je suis pas forcément pour la non-mixité, parce que je trouve qu'en fait, c'est d'autant plus riche, en fait, qu'il y ait une mixité, parce qu'en fait, il y a ça, et puis il y a aussi que dans la vie, de toute façon, on vit en mixité. Et donc, c'est aussi ça. Alors, c'est rassurant de se retrouver entre nous, mais je trouve quand même que, ouais, c'est... Moi, je sais pas si on peut être contre la non-mixité, mais en tout cas, moi, je trouve que ça a plus de sens pour moi qu'il y ait une mixité où qu'on soit. Que ça soit à l'école, que ça soit... Même dans un atelier d'écriture, pourquoi pas, en vrai, parce que les hommes aussi, ils ont des choses à dire et ils ont des choses à écrire.
Ouais, ouais, non, mais carrément, je me permets d'ajouter une petite remarque, et puis je vais me permettre de recentrer le sujet. mais parce que la non-mixité en soi, enfin, mixité, non-mixité, c'est un sujet en soi qui mériterait 18 épisodes à soi seul.
Nouvelle émission
non-mixité. Bientôt. Mixité, non-mixité, qu'en pensez-vous? C'est parti. Mais en tout cas, la non-mixité, en tant que pratique politique, en fait, comme on l'entend, c'est vrai que c'est une étape. C'est pas une fin en soi. Le but n'est pas de vivre en non-mixité. Le but est de libérer des espaces de certaines figures qui représentent des classes d'oppression de genre ou autre, de couleur, de d'argent, enfin tout ce que tu veux, pour pouvoir se retrouver entre personnes concernées par les oppressions, pouvoir en parler, libérer la parole, et ensuite passer à, dans un cadre mixte, du coup, maintenant qu'on s'est bien empouvoiré entre nous, qu'on a construit un discours, qu'on a analysé ensemble, qu'on s'est rendu compte, etc., là, on peut partager en mixité et faire avancer les choses. Okay. C'est une étape. Mais du coup, pour clôturer, enfin, si ça va, si t'as rien à rajouter, Maya, par ailleurs. Hein,
non, évidemment.
Mais du coup, je rebondis sur ce que tu as dit quand même il y a quelques minutes déjà. Tu parlais des toilettes non mixtes, par exemple, donc tu parlais des espaces, et on se demandait avec Mathéo justement la construction de son espace intime dans un squat, qui est aussi un lieu collectif de fait, et la construction de son espace intime en tant que femme ou personne sexisée notamment, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous repérez des trucs où, genre, parce que vous êtes une femme, on envahit plus facilement votre espace ou ce genre de choses? Est-ce que vous vivez ça, vous repérez ça?
Moi, j'ai pas l'impression, là. Non. 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 Franchement, là, j'ai pas l'impression. On nous a laissé, en fait, nous installer comme on voulait, comme on l'entendait. Après, voilà, ça a été plutôt une question de ceux qui sont arrivés en premier et qui, à la base, étaient censés rester en vraiment tout petit nombre, ont pris les espaces les plus spacieux, mais après, donc, il restait des espaces un peu moins spacieux, mais ça n'avait pas été une question de genre ou rien à voir. Enfin, ça a été plutôt une question d'ordre d'arrivée. Et voilà. Et après, par la suite, on nous a laissé faire nos toilettes, prendre des espaces qu'on avait besoin. Non, et d'ailleurs, les gars sont super bienveillants par rapport à ça, donc non, j'ai rien à dire là-dessus.
Bah, tant mieux, hein. Cool.
Ouais. Et après, avant, est-ce que ça a été comme ça dans d'autres endroits? Bon, j'ai pas l'impression non plus. Si, peut-être, mais voilà, c'était il y a un moment, et c'était comme moi, j'étais pas vraiment investie dans certains lieux, donc... Ça serait peut-être un peu spéculé. Je vais rien dire.
Et toi, Manu, tu repères des trucs ou...
Je suis désolée, je suis en train de m'étrangler.
Pas de souci, prends ton temps.
Voilà. En fait, non, c'est aussi pareil, une question d'ordre d'arrivée. Enfin, moi, typiquement, par exemple, je suis arrivée la dernière. Et donc, du coup, c'était la chambre qui était disponible. Il se trouve que, bon, c'était une chambre de fille au départ. Enfin, il y a une fille qui vivait là-dedans, mais je pense pas qu'il y ait... Enfin, ouais, non, il me semble pas. Et par rapport à... au fait, par exemple, de rentrer dans l'intimité de la personne, en fait, je trouve que c'est hyper délicat quand on vit en communauté, parce qu'en fait, on peut pas savoir c'est difficile de savoir le moment en fait où tu peux taper par exemple à la porte. De toute façon, on frappe toujours avant de rentrer dans une chambre. Ça, c'est la règle pour tout le monde. De toute façon, c'est même un truc. C'est pas une règle, c'est un truc qui est naturel, je crois. Mais donc de savoir, à quel moment est-ce que tu peux te dire, là, je frappe et je dis, est-ce que tu veux venir boire un café, faire un jeu avec moi? Ou alors de savoir, en fait, à ce moment-là, de se dire, non, en fait, peut-être qu'elle a envie d'être tranquille dans sa chambre. Mais ça, c'est un truc assez naturel et organique et assez spontané. Je trouve que ça marche plutôt bien, la clé. C'est plutôt chouette.
Et au niveau de l'investissement des espaces collectifs, parce que du coup, espace intime, là, j'entends que vous avez vos chambres, en fait, donc il y a des murs, en fait, pour le délimiter. Enfin, c'est vrai que c'est différent quand on est dans un sleeping ou ce genre de choses-là, les espaces, les dortoirs collectifs, on va dire, ou dans certains lieux. Moi, j'ai dormi très, très longtemps en espace collectif, d'où cette question-là à laquelle j'ai pensé. Au niveau des espaces communs, est-ce que, vous repérez ou vous avez repéré dans d'autres occupations que, un peu comme dans l'espace public, là, les femmes toujours sur les côtés et les hommes au milieu, des trucs comme ça? Non, pas trop.
Pas du tout.
Pas du tout non plus.
Décidément, toutes nos questions tombent à l'eau.
C'est positif, j'ai envie de dire.
Oui, non, tant mieux en plus, grave, tant mieux, carrément.
Alors, j'ai juste une question, surtout pour toi, Maya, parce que là, comme tu as dit en début d'épisode, tu es aussi maman. Et je ne sais pas si tu as vécu ta grossesse, tu étais déjà en occupation ou pas. Ou en tout cas, comment tu vis ça? Parce que comment tu t'en être maman au sein d'une occupation, s'il y a parfois des difficultés aussi avec. Si tu as eu.
Ouais, je comprends.
Je préfère laisser en fait ta question un peu large parce que j'ai pas envie de.
Ouais, mais y a pas de souci. Je vais y répondre aussi complètement que je peux. Mais en fait, non, j'étais pas enceinte quand j'ai commencé à vivre en occupation. Donc mon petit garçon, il a 8 ans maintenant. Et donc à l'époque, j'avais 24 ans quand j'ai accouché. Et donc là maintenant, j'en ai 32. Donc je vis, ça fait depuis 2022 que je suis en occupation. Et Aiden, mon fils, est venu me voir quelques fois là actuellement au Fréon. Avant ça, il venait pas me voir parce que je vivais pas dans des endroits vraiment, comme on va dire, ouverts au très jeune public, on va dire ça comme ça. En tout cas, qui n'était vraiment pas adéquat pour recevoir des enfants, quoi. Tout simplement. Et du coup, je le voyais à l'extérieur, quoi. Donc, dans ma famille à moi, ou alors je le prenais et on allait généralement chez ma mère, mon père, ma tante. Voilà, comme ça, lui aussi continuait à avoir sa famille, parce que depuis que je n'ai plus de logement, il ne vient, il vit plus avec moi. Donc ça c'est toute la question qui est compliquée. Moi j'aurais aimé vivre dans un appartement avec lui. Après je me rends compte que j'aurais vraiment eu dur, quoi, toute seule à payer maintenant des loyers impossibles, quoi, sur Bruxelles en tout cas. Je vois pas comment, les autres parents ils en sortent, surtout les autres parents seuls, quoi. C'est pour ça que moi j'avais pensé aussi peut-être à un projet pour les familles monoparentales, hommes et femmes confondus, qui sont seuls avec des enfants, de peut-être faire une plateforme où ils puissent se rencontrer pour faire des colocations. Et parce que sur Bruxelles actuellement, ça va pas s'arranger de sitôt et ça va vraiment être de pire en pire, je pense. Et c'est pourtant là où il y a le travail pour beaucoup de personnes, quoi. Oui. Donc c'est une réalité. Et ça c'est quelque chose que je voulais faire comme un petit projet éventuellement au Fréon, si on maintient le cap et qu'on arrive à être conventionné. Je suis sûre que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être utile au niveau social, quoi, oui. À beaucoup de personnes. Sinon, moi... de mon côté, je continue à me battre quelque part pour mon enfant, pour qu'il sache que je suis là, que je l'abandonne pas. En sachant que voilà, je réfléchis sur plusieurs années, sur du long terme. Et donc voilà, ce qui implique pas mal de logistique, on va dire ça comme ça. Mais voilà, ça va quand même pour du mieux. Et je continue à voir comme ça, juste devant.
Bah, j'espère que ça va s'arranger.
Ah ouais, mais ça s'est déjà arrangé. Voilà, c'est même ici, là, encore dernièrement, il y a une déléguée du SPJ qui est venue voir le Fréon. Mm-hmm. Et qui était, elle voulait même plus partir à la fin. je marchais SPJ, vers la sortie.
SPJ, c'est Service Protection des Jeunes, c'est ça?
Voilà, c'est, voilà. Okay, c'est l'aide à la jeunesse, voilà. Mais de manière juridique et, enfin.
Et du coup, elle venait de voir toi avec ton fils, c'est
non,
ça,
sans ou... mon fils, juste l'endroit où je vis.
Oui, mais du coup, en suivi de ton dossier, parce que...
En suivi de mon dossier, voilà, d'accord. Tout à fait.
Parce que du coup, vis en squat, du coup, t'as un suivi en
non, c'est pas pour, c'est pas que, c'est pas juste à cause du fait que j'ai vécu en squat. Ouais. C'est par rapport à ce qui s'est passé.
Ok.
Juste avant que j'arrive en squat.
D'accord.
Okay.
C'est-à-dire des difficultés personnelles. Bah, je peux le dire, hein, j'ai eu la toxicomanie, etc. Ouais. Voilà, je n'ai pas honte de ça parce que c'est une réalité. Ouais, mais par contre, depuis que je vis en squat, ça a été aussi une réalité, mais pas que j'ai vécu, que j'ai en fait vu. En fait, du coup, parce que moi, c'est le moment où j'ai arrêté que j'ai commencé à habiter en squat. Donc ça a été tout un panel d'émotions, je vous raconte pas. Voilà, mais ça a été tout un panel d'émotions, mais en même temps, je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou pas, mais en tout cas, en tant que mère, mon enfant m'a énormément manqué et j'ai trouvé ça très injuste, le fait que les autorités ne m'aident pas à avoir un logement malgré ma situation et surtout après ne m'aident pas à en avoir un et surtout après me le reprochent.
Oui, alors que déjà, toi, t'es sortie de l'addiction, que t'as fait en sorte de pouvoir accueillir ton fils, etc.
C'est ça.
Une vraie discrimination.
J'ai jamais compris, en fait, vraiment leurs intentions, quoi. Et donc, du coup, il y a quand même une espèce de... Après l'incompréhension, vient un peu la colère et la haine, en fait. Et donc, c'est très difficile d'avoir un discernement et de raisonner correctement à propos de ça, parce que je sens vraiment une injustice, quoi. Parce que j'ai toujours été, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de choses pour la société, entre guillemets. J'ai été une bonne, gentille femme jusqu'à ce que je tombe dans la toxicomanie. Et alors là, du coup, j'ai plus un droit. Et surtout, même, on n'arrête pas de me le reprocher à longueur de temps. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve énormément juste. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le squat, c'est clairement politique et c'est une question de l'État. Et justement, les personnes...
Mais ça fait partie un peu des batailles que les mamans seules doivent faire. Bataille auxquelles les mamans seules doivent faire face. Donc j'espère que ça va s'arranger.
Merci.
Et d'ailleurs, je vais me prendre force pour ton projet.
Merci.
L'expérience, la cheville, une personne qui fréquente, qui vit dans une colocation de ce style. Et c'est génial même pour les enfants, parce qu'en fait, les enfants même se côtoient l'un l'autre. Donc, je pense que ça, c'est un super projet. J'espère que ça va aboutir. Et je vous propose alors de faire une petite pause musicale, de laisser la place à Glove, avec leur chanson s'appelle Femme du futur.
Elle est
Voici.
Renouveau, voici, c'est joli.
Ah, c'est très joli,
oui, tu vois.
Nous revoilà.
Et nous voici. On change. On peut changer un peu, non?
Ouais, carrément. Et nous venons d'écouter Femme du futur, le single de Glow, groupe d'électro glam pop bruxellois. Queer à paillettes, plein de rage, plein de revendications et stay tuned parce qu'il y a le premier album qui arrive bientôt.
Ah, oh, trop bien.
Et d'ailleurs, vous pouvez trouver leur contact et leur canaux de distribution en description d'épisode sur le site de Radio Panique. Donc si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil.
Allez-y, ça vaut le coup. Ouais. C'est le feu.
Et les concerts, si vous avez l'occasion d'aller au concert, c'est aussi quelque chose de ouf.
C'est une vraie performance.
Carrément.
Allez, j'enchaîne. Du coup, depuis le début là, de l'enregistrement, en fait, ce que je constate, c'est que je viens chercher la petite bête avec toutes mes questions de « Alors, est-ce que vous sentez des différences hommes-femmes ou personnes sexisées, etc. dans vos occupations ?» Et finalement, bon, il y a quelques trucs, évidemment. Tout n'est pas tout lisse, mais finalement, en fait, ce que je constate, c'est que vous vous sentez plutôt bien et en sécurité, en fait, dans vos occupations respectives en tant que personne non homme cis, ce qui est hyper positif. Mais du coup, ça me pose la question de comment ça se fait, en fait, alors que partout, on entend des récits hyper durs, des femmes qui sont violentées dans tous les espaces, qu'ils soient privés ou publics, et dans deux squats au moins, mais j'ai entendu dans plein d'autres squats et pour y avoir vécu, c'est quand même une question qui se pose. En fait, finalement, la violence ou le sexisme est moins présent ou est-ce qu'il est plus questionné? Est-ce que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Ben, moi, je trouve c'est une super bonne question et c'est une belle ode, finalement, parce que je remarque en tout cas de plus en plus que même si je vis des moments super durs dans ma vie, je suis en fait super heureuse, quoi, dans cette vie-là que je vis là actuellement et que tout le monde regarde avec un air bizarre. Je suis bien plus heureuse ici et je me sens en accord avec moi et en sécurité réellement. Pas depuis que je suis en squat, hein. Mais en tout cas, là, actuellement, là où je suis, c'est là où je serais toute seule dans un appartement, je serais vraiment pas à l'aise, en fait. Là, maintenant, je m'imagine si j'étais seule. C'est pour ça qu'aussi, de là où vient mon projet aussi, parce que les colocations, je pense que c'est aussi pour les femmes et les parents, en fait, juste seuls, de ne pas être juste seuls. Et ça, c'est vraiment une autre question, hein. C'est peut-être juste la solitude et le fait de... Ça, c'est encore autre chose que financier. Mais actuellement, moi, je suis très, 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 très heureuse. Je n'ai jamais été aussi, en tout cas, acceptée. Et c'est ça qui rend heureux, en fait, je crois. Voilà.
Carrément. C'est vrai qu'accepter, moi je dirais même respecter, parce que je crois que ça va au-delà en fait de l'acceptation, c'est le respect en fait.
C'est ça.
C'est le respect de qui on est en tant qu'individu, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Et en fait, je crois qu'il y a aussi, ça je me suis rendu compte, c'est en fait, des fois on se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas respecté. En fait, c'est souvent parce qu'en fait les gens n'ont pas été respectés. Et donc en fait, c'est difficile. C'est un apprentissage et le fait de ne pas l'avoir été, par exemple. Ça peut être dans son enfance, ou ça peut être même dans sa vie d'adolescent, même dans sa vie d'adulte. Du coup, c'est très difficile, je crois, d'apprendre en fait, à accepter quand en fait, on n'a pas été accepté. Et donc, je crois qu'on est... Enfin, en tout cas, moi, le groupe où je suis, il y a une réelle bienveillance et une réelle... écoute de l'autre, de qu'est-ce qu'il est. Par exemple, c'est un truc tout bête, mais on fait la météo, en fait... au début de chaque réunion, et donc voilà, là c'est le moment où on peut dire comment est-ce qu'on se sent. Et en fait, c'est pas mal parce que ça permet aussi des fois de se dire dans la semaine, si on voit par exemple que la personne est pas très très bien, du coup ça peut expliquer un petit peu pourquoi. Et donc ça permet aussi qu'il n'y ait pas de non-dit, pas de malentendu, pas de se dire en fait c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait quelque chose, alors qu'en fait si ça se trouve, la personne elle vit un truc qui est hyper dur. Qu'en fait, si on le sait pas, des fois on se demande aussi et on a presque l'impression que ça vient de nous, alors qu'en fait non. Des fois, c'est autre chose. Donc voilà, moi c'est ça. Moi, il y a vraiment l'écoute et le respect.
Ouais, en fait, c'est ce type d'exercice là dont tu parles, la météo en début de réunion, comment on se sent, etc. En fait, ce que ça m'évoque quand on parle, c'est comme si, comme on fait attention à l'autre en tant que personne avant tout, peu importe. Son genre, son ethnie, etc. En fait, on remet au centre son individualité et sa dignité. Et du coup, en fait, ça efface. Enfin, ça tend à effacer, parce qu'évidemment, probablement, on a plein de biais inconscients, etc. Et ça prendrait des heures et des années, même de recherche et d'observation pour tout décoder. Mais du coup, finalement, le fonctionnement en autogestion et du coup en attention de l'autre... Et c'est très politique, en fait, ce truc-là de « je vais faire attention à l'espace collectif autour de moi et aux gens autour de moi en tant qu'individu entier, intègre, qui mérite ça, le respect ». Du coup, en fait, tout de suite, en tant que femme ou personne sexisée, alors que dans les autres endroits de la société, on se fait marcher dessus, silencier, etc. En fait, c'est un espace de respiration et d'empouvoirment. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le vis comme ça et je le perçois comme ça.
Ouais, je suis assez d'accord.
Quand même. C'est vrai que je vis ça, par exemple, j'aime beaucoup l'image de, on parle de personne morale quand on parle d'ASBL, et en fait pour moi c'est une personne morale, mais en fait c'est une personne comme si en fait chaque membre en fait de l'ASBL était en fait un membre de la personne morale, et que donc quand on met toutes ces personnes, en fait ça crée la personne morale. Et c'est une métaphore, mais pour moi ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc c'est pareil, je veux dire, c'est comme si par exemple Balt c'est le cœur Moi, par exemple, je vais plutôt être le ventre et tout ça. Et donc, il faut faire attention, en fait, à tous les organes qui composent la personne morale pour que, en fait, la SBL se porte bien, quoi. Et donc, voilà, du coup, je trouve que c'est... Ouais, c'est une belle métaphore et je trouve que c'est intéressant aussi de voir ça comme ça. Parce qu'en vrai, quand on crée une SBL avec des gens, c'est pas une entreprise. Pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Surtout quand on décide de vivre avec ces gens-là.
Absolument.
Je me permets de poser une question. Surtout par rapport au fait que tu dis l'SBL, donc le fait de créer cette collectivité, et surtout parce qu'en vous écoutant parler depuis bientôt une heure qu'on est ensemble, vous avez témoigné donc des deux réalités qui sont, je me dis, un peu en contraste avec la réalité de la société dans laquelle on vit. Et heureusement que cette réalité existe, donc la réalité dans laquelle il y a un peu le patriarcat, il a un peu mis, je me dis, mis à mal dans le sens où, en fait, c'est des réalités, des espaces de réalité à partir desquels donc les patriarcats vont les questionner et déconstruire. Et donc, bon, déjà, je voulais dire, heureusement, je suis content par des réalités comme ça existent. Et donc, c'est un peu une question, peut-être un peu une provocation à nouveau pour la société. Est-ce que vous pensez donc que des milieux, les milieux scouts, des expériences, des milieux comme et ceux dans lesquels vous vivez, puissent en fait être un peu un défi vis-à-vis du patriarcat? Donc, est-ce que le fait de vivre en scout, vivre en collectivité, pourrait donc amener à être en fait une force pour la lutte féministe, pour la lutte des personnes genrées? Et donc, est-ce que donc, ça veut dire, le fait de vivre en scout, est-ce que ça peut représenter aussi une utile de lutte pour vous en tant que en tant qu'individu, mais aussi vous en tant que personne sexisée?
Ouais, moi tout à fait, hein. Moi c'est sûr que je trouve tout à fait, c'est quelque part un choix. C'est pour ça que ouais, moi souvent mon père souvent en fait des hommes m'ont posé cette fameuse question: pourquoi tu veux pas sortir des squats, ou pourquoi tu ne sors pas des squats, pourquoi tu veux pas t'en sortir? À chaque fois c'est la question qui revient toujours. Et à chaque fois, j'ai envie de leur répondre, mais en fait, je n'ai pas envie d'en sortir. Et pour eux, en fait, c'est vraiment c'est le fait de choisir d'y être. C'est vraiment, c'est comme si accepter que on est rien, quoi. Et après ça, il faut pouvoir accepter nous ce que eux ont dans la tête. Pour le moment, on va dire, voilà, parce qu'on ne peut pas changer une mentalité, ou en tout cas raisonner quelqu'un en deux secondes, et pouvoir se dire que ce n'est pas la réalité, ce qu'il voit, quoi. Mais on va dire que la plupart des gens, en tout cas même, moi je parle de mon père, des anciens petits amis, etc., enfin même ma maman à un certain moment, même si maintenant elle a changé d'avis, parce que voilà, c'est une femme, elle a vu les choses autrement.
On évolue, c'est un processus. Hein?
Mais clairement, ça sort souvent de la bouche des gars. Et vous voyez, en fait, quelque part, ils comprennent pas, eux, le fait que je sois heureuse comme ça. Certainement, parce que ce qu'on vient de dire, hein, ils se rendent pas compte à quel point la vie est quand même beaucoup plus douce. En fait, voilà. Et ça, ils peuvent pas le comprendre parce qu'ils ne le vivent pas. Et donc voilà, et c'est là où il y a toute la différence entre le vivre dans la société ou vivre en squat comme là je suis actuellement. Mon père ne pourrait pas le comprendre, ni même l'entendre, ni même mon père, ni mon ex ou mon oncle, même certains amis que j'ai connus à l'école ou quoi, et ben font pas comprendre, quoi. Après, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes aussi. Hein. Je tiens à le dire quand même, mais c'est souvent, ça vient souvent de la part de d'hommes, quoi. Voilà.
Alors moi, c'est plutôt, j'aime bien l'idée que de semer des graines d'idées, justement. Et donc je crois qu'en fait c'est mon mode de vie, j'essaye que ça soit une inspiration dans le fait de dire en fait c'est possible, parce qu'en fait moi je le vis, et donc pourquoi pas, en fait. Comme tu dis, effectivement, ça va pas changer du jour au lendemain. Mais moi, j'aime bien cette idée de semer des graines dans les esprits. Et moi, je vis ça quand je rentre en France, par exemple. et que j'explique à mes oncles et tantes que je m'en occupe avec plein de gens, enfin, qu'on fait de la récup alimentaire et tout, eux, ça leur paraît complètement surréaliste. Mmh. Mais en fait, je me dis, le fait que je leur en parle, que je leur explique, que je prenne le temps de leur expliquer, peut-être que ça peut semer des graines de dire qu'en fait, c'est possible.
Mais tout à fait.
Et donc ça, voilà, je trouve ça hyper cool. Il y a autre chose aussi, je voulais dire, c'est... il y a l'idée de la complémentarité aussi. Enfin, on parle aussi des hommes, des femmes. Et en fait, pour moi, il y a une vraie complémentarité, en fait. Et comment je vis très très bien ça à la clé, c'est qu'on est tous complémentaires. Qu'en fait, s'il y a un des éléments, une des personnes, en fait, qui s'en va, eh ben, en fait, il va nous manquer une personne, mais aussi ce qu'elle apporte, en fait, au sein de l'ASBL et au sein de la, dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Et donc, il y a ça aussi, je trouve que c'est hyper intéressant, ça c'est plus dans la vie communautaire, c'est qu'en fait, il y a une complémentarité qui se fait entre les gens, et que du coup, on arrive à faire beaucoup plus de choses, je crois, que si on est tout seul chez soi. Et en fait, il y a des choses qui ne sont pas possibles parce qu'on ne sait pas faire. Alors que là, typiquement, moi, le jardin, moi, je suis nulle en jardinage. Et donc, on a des gens qui sont là et qui font le jardin. Et c'est vrai que je peux donner un coup de main pour le jardin, mais le plaisir d'aller, par exemple, chercher mes tomates, ça, c'est un truc si je vivais toute seule. Et donc, du coup, je ne pourrais pas vivre ce genre de choses.
Ça autonomise, ça permet de mettre les mains dans des trucs auxquels on n'aurait pas eu accès, notamment en tant que femme et tout ça. Et avant de laisser Mathéo conclure, je me permets une citation de l'ouvrage Le genre du squat, écrit par Joanne Le Bar, sur lequel je me suis beaucoup basée là, pour préparer cet épisode et que j'ai beaucoup aimé. Et elle dit « L'entrée dans la mouvance autonome et libertaire » entre parenthèses le squat ouvre la voie à une critique féministe, et je sais pas vous, mais moi je suis assez d'accord avec ça.
Ouais, ça fait vrai, je trouve.
Malheureusement on n'a plus de temps, comme à chaque fois on a vraiment l'impression qu'il
on aimerait bien en avoir plus.
Oui, exactement, mais j'espère alors que comme Manu disait, donc c'est mère des petites graines. J'espère que cette émission et vos témoignages surtout puissent représenter donc des petites graines qui vont germer dans la tête des personnes, des auditeurs, auditrices, et qui peut-être amèneront un changement. Mmh. Et alors, avant de clôturer cet épisode hyper chouette, je laisse une dernière fois la parole à Manu, qui voulait nous partager un de ses textes. Et sur ces paroles, je vous souhaite une bonne soirée et au mois prochain.
Donc ce texte s'appelle « Maison corps » et donc je l'ai écrit du coup à Elfréon, et donc je suis la maison. J'étais une grande dame, toute parée de fréon, presque déjà morte, avec frigo mais sans ronron. On m'avait laissée, comme une vieille chaussette abandonnée, il y a bien que les pigeons qui venaient y recouler. Mais voilà, un jour, des gens sont venus. À force de nettoyage, ils m'ont redonné la vue. De me décorer et de m'aimer, la vie est revenue, je me suis aéré le corps, le moisi ne poussera plus. Moi j'aime être squattée, ma vie reprend son cours, les plantes elles sont toujours là, implantées dans le béton de ma cour. J'ai entendu dire qu'ils voulaient les garder, et aussi plus tard dans des bacs en rajouter. Moi quand je fleuris avec mes plantes et mes nouveaux amis, je suis ravie, ravie d'être de nouveau en vie. Grâce à vos envies, de nouveau je souris. Alors à vous, squatteuses et squatteurs, vous, mes nouveaux amis, avec vous vient le bonheur, donc je vous dis juste merci, un immense merci.
Voir la beauté dans les virages, voir les virages dans les lignes droites, tu me dis, quelle est ma trajectoire, je te dirai.
Notre corps nous appartient.